Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions » et lui dire « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui est celui d'entre eux qui ferait cela. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes de ceux qui avaient persévérer avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Et il leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Et ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, cela suffit. En préparant ce message, je pensais à ce gospel de Louis Armstrong, Nobody Knows the Trouble I've Seen. Personne ne sait le trouble que j'ai vu. Il continue en disant, Nobody knows but Jesus. Personne ne sait, mais Jésus sait. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. On connaît ça. On est haut, t'es bas. Sometimes almost to the ground. Carrément, presque par terre. Et c'est un peu ce que j'ai connu ces derniers temps. J'étais confronté à des situations troublantes, pour le moins. À la réalité, par exemple, des puissances démoniaques. Ça, c'est troublant. À la réalité du péché, même chez le chrétien. Et ça, c'est aussi troublant. J'ai été confronté aussi à l'hostilité du monde pour le chrétien. Et chacune de ces situations génère du trouble. Dans certaines situations, vous avez l'impression que tout va s'effondrer. Vous voulez mourir. Vous êtes prêt à tout laisser tomber. Considérez la situation des disciples ici. L'un d'eux est un traître. Les autres sont orgueilleux et lâches. Et le Seigneur les avertit qu'ils vont rencontrer désormais de l'opposition. Il y a vraiment de quoi être gagné par le trouble. Ce matin, je vous propose de regarder trois situations de trouble et les réponses extraordinaires que le Seigneur donne à chacune. Troublé par Satan, troublé par la chair, et troublé par l'hostilité du monde. Mais ce qui nous intéresse par-dessus tout, c'est de connaître la réponse du Seigneur et le triomphe du Seigneur sur le trouble qui peut gagner nos cœurs. Gary Lineker, c'est pas un théologien, c'est un footballeur anglais. Il a eu cette parole il y a quelques années, je crois que c'était dans les années 90, et cette parole est restée fameuse, elle s'est encore vérifiée cette année. Il a dit « Le football est un sport simple. 22 hommes poursuivent un ballon pendant 90 minutes et à la fin, les Allemands gagnent. » C'est comme si on a beau faire tout ce qu'on veut, c'est quand même les Allemands qui gagnent. On a beau se déchaîner, se démener, c'est les Allemands qui gagnent. Et l'histoire de l'univers est assez simple. Le diable attaque, les hommes défaillent, le monde s'oppose, et à la fin, Dieu gagne. Et à la fin, Dieu gagne. Et c'est ça qui est merveilleux pour nous de savoir, c'est que malgré le diable, malgré notre propre chair, malgré le monde qui s'oppose à nous, à la fin, c'est quand même Dieu qui gagne, Jésus-Christ qui est glorifié, et nous qui sommes dans la joie parce que l'on connaît le Seigneur, notre Dieu, comme notre Sauveur. Nous sommes dans le camp du vainqueur. Se révolter contre Dieu, c'est choisir la défaite. Lutter contre Dieu ou s'opposer à lui, c'est du suicide. C'est quand même lui qui gagne. L'issue, elle est connue d'avance. À la fin, c'est toujours Dieu qui gagne. On a simplement le choix du moment où l'on reconnaît sa victoire. On peut le faire aujourd'hui en reconnaissant notre besoin de pardon et d'un sauveur. Ou bien on le fera malgré nous, lorsque l'on comparaîtra devant lui dans l'éternité pour recevoir notre condamnation. Comme dit l'apôtre Paul, « Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre, et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Amen. C'est magnifique. À la fin, tout le monde, les croyants, les incroyants, le diable, les démons, les anges, tous reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur et ils le confessent, les uns pour leur plus grande joie et pour leur gloire, les autres pour leur perte, pour leur ruine éternelle. Alors ce matin, voyons troublés par le diable, par Satan. Tous savent qu'être à Jérusalem à ce moment-là pour le Seigneur Jésus et pour ses disciples, c'est très dangereux. Hein, notre texte, le début du chapitre 22, le verset 2 dit « Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus car ils craignaient le peuple. » Ils veulent faire mourir Jésus. Et quand Jésus avait annoncé « Il faut que je monte à Jérusalem », un des disciples dit « Bon ben, allons-y, montons-nous aussi et mourrons avec lui. » Ils pensaient vraiment, c'était la cata, c'est-à-dire, allez, c'était se jeter dans la gueule du loup. Mais là, en fait, ils sont dans la chambre haute. C'est un moment tellement intime dans la vie des disciples. C'est l'évangile de Jean consacre les chapitres 13 à 17 à ce temps-là. Et là, le Seigneur est avec les 12. Ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont été souvent entourés d'une grande foule, mais là, ils sont juste eux. Ils se connaissent tous très bien. Ils sont entre eux, si on peut dire. Ils viennent de commémorer la Pâque. Et Jésus a inauguré un nouveau repas, la Sainte Cène, par lequel il annonce sa mort. Et juste après cela, il annonce une chose hallucinante. Verset 21. « Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. » Il dit clairement, « Je vais être livré par l'un de vous. » Le diable est entré dans Judas, on voit ça au verset 3, et il accomplit son plan diabolique. Il y a vraiment de quoi être rempli de troubles. Je développe un peu avec le texte parallèle en Jean 13, verset 21. Il dit, « Ayant ainsi parlé, Jésus, troublé en son esprit, et il dit expressément, « en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il faisait nuit. Il faisait nuit. Il faisait nuit dehors et dans les cœurs. Il faisait nuit. C'était les ténèbres qui avaient envahi ici. Judas, c'est un hypocrite. Il a caché son jeu pendant 3 années. Même quand Jésus le désigne avec ce morceau de pain, aucun disciple ne comprend que c'est lui. Il a tellement bien joué le jeu que personne n'a pu imaginer la chose. Il y a des situations où on a l'impression que le diable fait ce qu'il veut. Il agit avec ruse, il nous piège, il nous trompe, et on a l'impression ici que c'est le diable qui décide de tout là. Il a réussi à animer le cœur de Judas, donner cette hypocrisie pendant si longtemps. Maintenant, il rentre carrément en lui et il va jusqu'au bout de l'œuvre. Et parfois, on a cette même pensée, on dit, mais c'est le diable qui fait son job et il n'y a personne qui peut l'arrêter. Mais regardez, le verset 22, et c'est là la réponse du Seigneur Jésus. il dit, le Fils de l'homme s'en va. Le Fils de l'homme s'en va, oui, le Fils de l'homme va mourir. Oui, le Fils de l'homme va être livré par un traître. Selon ce qui est déterminé. Selon ce qui est déterminé. Et c'est ça qui est tellement fort ici. C'est exactement ce qui doit arriver, arrive. Déterminé par qui ? Par Judas ? Non, par le diable non plus. Par les religieux, les Romains ? Par Pilate ou par Hérode ? Non. Déterminé par Dieu. Ce qui s'accomplit, c'est ce que Dieu a déterminé à l'avance. Et c'est cela qui est extraordinaire. Regardez Actes chapitre 2, Actes 2, 23. Il y a pas mal de versets comme celui-ci dans les Actes. Mais je lis simplement celui-ci. Il dit, cet homme, parle de Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Il dit, c'est la main de Dieu qui a déterminé ces choses-là. Et vous les avez exécutées. Et vous les avez exécutées. Je trouve ça d'une puissance extraordinaire et puis d'un encouragement. Tout est sous le contrôle de Dieu. C'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Jésus n'est pas une victime. Il donne sa vie. Il est venu pour mourir pour nos péchés. Personne ne prend sa vie, il la donne de lui-même. C'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Dieu avait de toute éternité prédéterminé la mort rédemptrice de Jésus. Elle faisait partie de son plan, établi d'avance. La trahison de Judas était même annoncée. Dans le psaume 41, verset 10, dit ceci. Psaume 41, verset 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. C'est fort. C'était annoncé à l'avance. Le montant même était déterminé à l'avance. Hein, c'est en Zacharie chapitre 11, versets 12 et 13. Le salaire de sa vie, c'est 30 pièces d'argent. Et c'est exactement le salaire qu'ont donné les sacrificateurs à Judas pour qu'il livre Jésus. Mais ça, c'était le salaire du crime. Alors, quand il a pris cet argent, il a réalisé ça, mais plein de remords, il a voulu rendre l'argent. Et non, ça c'est... Et puis eux, ils ont dit... Oh, ça, c'est de l'argent sale, on ne le veut pas. Il l'a jeté dans le temple et avec cet argent, ils ont acheté le champ du potier pour faire un cimetière. Et ça, Zacharie l'avait annoncé 450 ans plus tôt. C'est incroyable. Les détails sont sous le contrôle de Dieu. Judas a agi comme un athée. Les athées pensent toujours que tout dépend d'eux. Ils pensent que, voilà, ils dirigent parfaitement leurs actes, ils sont parfaitement libres de leurs choix, mais la réalité, c'est qu'ils vont accomplir eux aussi, malgré eux, le plan parfait de Dieu, de sorte que même leur condamnation servira à glorifier Dieu. Certains diraient alors, mais dans ce cas-là, Judas et le diable, ils sont coupables de rien. Puisqu'ils ont accompli la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Regardez la fin du verset 22 hein, de notre passage. Il dit, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Malheur à l'homme par qui il est livré. C'est-à-dire que Judas reste entièrement coupable de ses actes. Et il va être condamné à cause de ses actes. Et ça, c'est un paradoxe pour notre compréhension, pour notre raison. Mais ce paradoxe est levé par la foi dans la parole de Dieu, dans les Écritures, on trouve ces deux pensées. Le plan de Dieu s'accomplit, c'est ce qu'on a lu en Actes 2, 23. C'était le dessein arrêté d'avance, les détails même étaient écrits, et pourtant, eux ont réalisé les choses, eux ont décidé, ont agi pour la destruction, pour leur propre destruction. Et puis maintenant, voyons, troublés par la chair. Donc vous comprenez la pensée ici, c'est le diable agit, mais il est toujours sous la domination et sous le contrôle du Seigneur. Ça veut dire qu'on peut être troublé par des situations, vraiment on a l'impression que le diable est à l'œuvre, mais Dieu est à l'œuvre et va réaliser son plan même au travers du diable. Et puis troublé par la chair. Parce que regardez, on pourrait imaginer qu'après une telle annonce, je vais être livré par l'un d'entre vous. Je vais être livré à la croix, je vais mourir. On pourrait penser, les disciples auraient peut-être dit, mais Seigneur, dis-nous en plus, on veut savoir comment ça, quelqu'un va te livrer. Comment ça, tu vas être arrêté, crucifié, mais explique-nous. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour empêcher ça? Est-ce qu'on peut te protéger? Je ne sais pas. Mais ça n'est pas du tout comme cela qu'ils ont réagi. Ils ont commencé par se demander, qui est-ce qui pourrait faire ça? Vous voyez le truc? Lui, j'ai toujours eu un peu des doutes sur lui. Ah non, mais pas moi. Non, bah, pas moi, non. Non, pas moi. Lui, peut-être lui. Ou lui. Mais pas moi, parce que moi, je suis un des plus grands. Ah non, alors, toi, non, quand même. Lui, il est plus grand, quand même. Non, c'est moi. Moi, je suis quand même le plus proche du Seigneur. Je suis désolé, j'étais sur la montagne avec lui. Et ça commence à discuter comme ça. Verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. C'est pas dit ici, mais j'imagine le trouble dans le cœur du Seigneur. Il annonce sa mort. Il annonce qu'il va être livré par l'un des siens. Un de ses amis qui est avec lui depuis 3 ans. Et eux, c'est moi le plus grand. Non, c'est moi. Non, c'est lui. Ouh là là. Le Seigneur a de quoi être troublé, je pense. Là, il va être crucifié, il va ressusciter, il va monter au ciel et il va laisser le message de l'Évangile entre les mains de cette équipe. 11 gars orgueilleux qui désirent la première place. Waouh, le trouble. Mais regardez la réponse du Seigneur. Comment est-ce que le Seigneur triomphe du trouble? Regardez verset 25. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Il dit, voilà, dans le monde, c'est celui qui est le plus fort, qui a le plus de puissance, qui domine. Celui-là qu'on honore, c'est celui-là devant qui reçoit les genoux flexions et c'est celui-là à qui l'on obéit, c'est celui-là qui est grand. Mais il dit, vous pensez exactement comme le monde pense. Mais dans mon royaume, le plus grand, c'est celui qui sert. Dans mon royaume, pour être grand, c'est une affaire d'humilité. Et il donne son propre exemple. Dans le passage parallèle, c'est Jean 13 toujours. Il dit, il mit le comble à son amour pour eux et il va leur laver les pieds. Vous savez, laver les pieds dans un repas comme celui-là, c'était la tâche qu'on confiait au moindre des esclaves. Même chez les esclaves, il y avait la hiérarchie. Le plus bas niveau d'esclave, c'est celui qui lave les pieds. Et Jésus, il se lève, il met un linge, il prend une bassine et il lave les pieds de ses disciples. Là, ça a dû... Vous savez, dans notre monde, on s'efforce toujours de jouer des coudes, d'écraser les autres pour s'élever. Mais dans le royaume de Dieu, c'est celui qui sert qui gagne. Et personne ne vous prendra cette place. Si vous voulez servir, servez. Il n'y a pas de lutte pour cette place-là. Et c'est pour ça que c'est tellement fort. Il renverse la pensée des disciples ici et il renverse notre propre pensée. Il dit, vous pouvez triompher en servant, en vous abaissant. C'est ce que Jésus-Christ a fait. C'est comme cela qu'il a triomphé. Dans les versets 28 et 29 et 30, il dit, regardez, vous... J'aime bien ça, parce qu'on voit chez le Seigneur le côté tellement... Je sais pas, il cache leur faute à ses propres yeux. Il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Ils viennent de se chamailler comme... Et il dit, moi, vous êtes vraiment des gars fidèles. Vous avez toujours été avec moi. Et quand il dit ça de nous, je connais l'histoire. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. C'est dingue! Il dit, vous allez réussir! Vous êtes des orgueilleux et pourtant... L'Esprit de la grâce va travailler dans votre cœur pour que vous puissiez effectivement être grand et servir dans ce monde et être une bénédiction pour votre entourage, de sorte qu'un jour, vous régnerez sur des trônes et vous dirigerez les 12 tribus d'Israël. Incroyable, incroyable. Vous allez réussir parce que ma grâce va agir en vous. Satan a rempli le cœur de Judas, mais mon Saint-Esprit, mon esprit, va remplir le vôtre pour que vous réussissiez, pour que vous persévériez jusqu'au bout. Et c'est cela qui est encourageant. Et puis il continue avec le verset 31 à 34, où il va appeler Pierre, mais il l'appelle par son ancien nom. Probablement que Pierre, il s'est pas mal illustré encore une fois dans cette dispute, qui est le plus grand. Et Jésus, il discerne l'assaut du diable et il interpelle Pierre avec son nom, son ancien nom, son nom charnel, si on peut dire. Simon, Simon. Et il dit, Satan vous a réclamé pour cribler, vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Vous remarquez ça? Satan demande la permission à Dieu de cribler les disciples, et en particulier Pierre. Satan aime bien Pierre, parce que Pierre, c'est l'extravagant, le premier en tout, dans les meilleures et dans les moins bonnes choses. Il est le leader un peu du groupe, c'est celui qui fait tout de suite, c'est celui qui parle tout de suite. Il dit, oula, celui-là, si je le mets par terre, tous les autres seront par terre. Et donc il cherche à cribler tous les disciples, parce que s'il peut cribler la foi de tous ses disciples et les décourager au point qu'ils renoncent à leur foi, l'évangile ne prospérera pas. Et là, le diable vient devant Dieu et dit, hey, tu veux bien me laisser Pierre J'ai des intentions de le cribler. C'est dingue. Et que dit Dieu? Ça, c'est pire. On penserait, t'es fou, jamais de la vie. Ah, il dit, vas-y. Vas-y, crible-le. Il lui donne la permission. C'est comme dans Job. Vous voyez Job, Satan se présente devant Dieu et il dit, Job, là, tu crois qu'il t'aime, mais la réalité, c'est que tu l'as tellement béni. Et que, voilà, si tu me le laisses, eh bien, tu vas voir s'il te bénit encore. Et Dieu dit, ok, tu ne touches pas à sa personne seulement. Et il y va, il lui prend tous ses biens, tous ses enfants. Tous, il perd tout. Et il dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Oh, et le diable, Dieu lui dit, qu'est-ce qu'il a dit, Job? Le diable dit, ouais, mais c'est parce que tu ne m'as pas permis de le toucher, mais permets-moi de le toucher lui, et tu verras. Il dit, ok, mais tu ne lui prends pas la vie. Et le diable va aussi loin que possible dans la blessure qu'il fait à Job dans son corps. Et Job dit, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Et en cela, il n'a pas péché. Et ici, c'est pareil. Le diable vient et il veut cribler. Et Dieu dit, ok, crible. Mais la réponse, au fond, du Seigneur pour vaincre le trouble, c'est ce qu'on lit au verset 32. Mais il dit, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Le Seigneur prie pour Pierre. Et sa prière spécifique pour Pierre, on la lit dans l'évangile de Jean, chapitre 17, mais c'est aussi la prière qu'il formule pour nous. Et je propose juste de lire chapitre 17 de Jean, versets 11 et 12. Il dit, « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. » C'est fort ça. Et le Seigneur a ce rôle d'intercesseur, et il prie pour nous. Et sa prière, c'est « Père Saint, garde-les ». Et on sait une chose, c'est que Christ, il est toujours exaucé. Toujours exaucé. Quand il prie « garde-les », on va être gardé. Il est notre sécurité. Si on devait garder notre vie, ce serait fichu. Si on devait garder notre salut, ce serait fichu, on l'aurait tous perdu. Mais nous sommes gardés par la prière de celui qui est toujours exaucé, et il dit, garde-les. La puissance de Dieu est manifestée pour que nous soyons gardés. Et malgré cela, l'apôtre Pierre, qui n'entend pas vraiment la parole du Seigneur, dit, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. Et voyons les versets 60 et 62. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, Comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Étant sorti, il pleura amèrement. Mais sa foi ne s'écroulera pas. Il sera là au tombeau, lors de la résurrection. Il sera là à Pentecôte. Et Dieu va l'utiliser comme un des instruments les plus aguerris. Il sera là encore pour écrire les épîtres. Et Pierre est rendu capable d'affermir ses frères. Et c'est cela qui est merveilleux, c'est que quand Dieu dit « Ok, crible-le », Dieu sait ce qu'il... Le diable a de mauvaises intentions. Il veut détruire le chrétien. Mais quand Dieu dit « crible-le », Dieu, lui, il a des bonnes intentions. Vous savez, quand il dit « cribler comme le froment », l'image, elle est intéressante. Hein, c'est, on crible le froment pour séparer le grain de la balle. Le grain, c'est tout ce qui est précieux, tout ce qui est utile. La balle, c'est l'enveloppe. Vous avez été confronté peut-être à votre propre nature charnelle. Cette nature charnelle, elle est vendue au péché. Elle accomplit les choses que vous dénoncez par ailleurs. Vous avez peut-être agi comme un lâche envers votre sauveur. Dieu fait une œuvre dans ces circonstances-là. Il permet que dans nos cœurs soit séparée notre nature, notre nouvelle nature, de cette vieille nature. Et puis on discerne cette vieille nature, puis on peut la rejeter. On peut s'en méfier plus que jamais. Et jamais j'aurais pensé que mon cœur était capable de faire une chose pareille, mais il l'a fait. Et quand on a fait cette expérience-là, alors on devient capable d'affermir nos frères. Et là, Dieu gagne. Et Dieu gagne. La troisième chose, c'est troublé par l'hostilité du monde. C'est ce passage des versets 35 à 38 qui est un peu particulier. Il leur dit... « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent « De rien. » En fait, dans les trois années qui ont passé, les disciples de Christ ont presque toujours été bien reçus. Forcément, ils guérissaient les malades, ils chassaient les démons, ils annonçaient le royaume de Dieu, mais les gens les recevaient dans leur maison. Ils les recevaient même avec une certaine joie. On a vu dans l'évangile de Luc, et c'est un thème de l'évangile de Luc, que Jésus est reçu dans les maisons, et là encore, on est dans une maison qui ne leur appartient pas. Il a juste dit, ben, voilà, tu suis ce gars, tu lui expliques, et puis il va te présenter la chambre haute. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais, voilà, ils n'ont jamais eu de difficultés. Ils voyageaient sans bourse, sans sac, sans souliers, et n'ont manqué de rien parce que les gens les recevaient et pourvoyaient à leurs besoins. Ils n'ont pas encore connu de réelle opposition. Ils n'ont pas connu la persécution. Il n'y a pas eu de martyr encore. Mais non, et eux, ils discutent. Alors, comment ça va se passer dans le royaume? Ah ouais, c'est moi qui sera le plus grand. Non, c'est toi. On sera sur le trône. Est-ce qu'on peut être assis de chaque côté de toi, Seigneur? Ils pensent que le monde leur est acquis, que tout va bien. Ils ne voient pas que les choses vont changer. Et Jésus cherche à éveiller leur pensée à de nouvelles réalités. Hein, au verset 36, il dit « Maintenant, au contraire !» Maintenant, au contraire !» Que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et en achète une. Wow! On dit maintenant, c'est une autre chanson. La nation va me rejeter. Et ils vont vous rejeter également parce qu'ils ne veulent pas de moi. et vous ne pourrez plus compter sur le monde pour vous accueillir. Vous aurez besoin de votre propre soutien. Si vous avez une bourse, prenez-la. Si vous avez un sac, prenez-le. Et si vous n'avez pas d'épée, eh bien, faites tout pour en avoir une, parce que vous pourriez en avoir besoin. Certainement pas pour combattre, hein, bien entendu. Même pas pour se défendre lorsqu'on est attaqué pour sa foi. Hein, les événements juste après vont le démontrer. Je suppose que quand il dit prenez une épée, c'est peut-être parce que si on ne vous reçoit pas dans les maisons, vous serez peut-être la proie des brigands ou des bêtes. Alors ça aura peut-être le coup d'avoir une épée pour se défendre. Vous allez connaître un monde hostile. Et c'est cela qui est terrible. Et ça pourrait nous troubler, ou pourrait troubler les disciples. Et nous, ça nous trouble aussi. Il y a des moments où on a l'impression que tout baigne, quoi. Les choses vont tellement bien dans ce monde. Nous-mêmes, on n'est pas persécutés. On nous jette pas des pierres. On fait pas partie de la liste des 50 pays les plus où la foi est vécue difficilement. Mais le diable est là. Le diable est à l'œuvre. Il est le prince de ce monde. Et il a d'autres armes. La séduction en est une. L'esprit de ce monde en est une. Et parfois, paf, on réalise, waouh, le monde ne nous reçoit pas. Le monde ne veut pas de nous. Le prince de ce monde est aux commandes et il s'oppose à l'œuvre du Seigneur. Et ça peut jeter du trouble dans nos cœurs. Et la réponse du Seigneur, merveilleuse, il dit, verset 37, « Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. » Et la parole, c'est celle-ci, « Il a été mis au nombre des malfaiteurs. » Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. « Il a été mis au nombre du malfaiteur. » Ceux qui connaissent Ésaïe 53, c'est le verset 12. Ésaïe 53, c'est le verset 12. Ici, « Il a été mis au nombre des malfaiteurs. » C'est-à-dire qu'il est en train de parler de ce chapitre d'Ésaïe 53. Les rabbins, John MacArthur dit que Ésaïe 53, c'est la chambre de torture des rabbins. C'est-à-dire, ça parle tellement de Christ. Et ici, Jésus identifie clairement de qui parle Ésaïe 53. Il dit, c'est de moi. Il faut que cette parole s'accomplisse en moi. Il authentifie celui dont on parle, c'est lui-même. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. C'est-à-dire qu'il a été bien sûr crucifié entre deux brigands. Il s'est associé aux gens de mauvaise vie. Mais ce n'est pas de cela dont parle cette expression, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Ça dit ce que tout le chapitre est en train de dire. Il a été mis au nombre des malfaiteurs par Dieu. Comprenez la chose? C'est Dieu qui l'a mis au nombre des malfaiteurs. Il l'a compté parmi les malfaiteurs pour payer nos fautes. Et au verset 10 hein, du même chapitre, il dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Vous voyez la chose? Et ça, c'est vraiment, vraiment important de bien comprendre ça. Parce que si Jésus est une victime du monde, alors notre salut, c'est un accident. Comprenez? Mais s'il a plu à l'Éternel, si la chose était annoncée longtemps à l'avance, si Dieu avait prédéterminé cette chose-là pour qu'on soit sauvé, alors c'est Dieu qui nous sauve. Et ça fait toute la différence. Notre salut vient de Dieu, et c'est sa volonté qui s'est accomplie, et c'est cela qui nous donne tellement d'assurance. Même quand le monde nous rejette, il a rejeté notre Seigneur, mais ça a été notre victoire. Alors si nous sommes rejetés, peu importe, nous sommes déjà victorieux. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici, c'est son triomphe. Il a vaincu, il a déjà gagné, il a déjà remporté la victoire sur notre péché, sur le diable, sur la mort. Alors, Vous ne vous effrayez pas. Vous êtes victorieux en Christ, même si le monde ne vous accueille pas, même si vous rencontrez de l'opposition ou de la persécution dans vos familles, dans le monde. Vous avez la victoire et vous êtes porteur de l'annonce du triomphe de Jésus-Christ. Verset 38, il dit, « Seigneur, voici deux épées. » Et il leur dit, « Ça suffit. Deux épées, ils sont 11. Ça suffit. » C'est pour dire, ne placez pas votre confiance dans ces épées. Vous allez triompher, non pas parce que vous avez deux épées pour 11. Vous allez triompher parce que je serai avec vous. Leur victoire dépend de leur accès à Dieu. Et ils ont accès à Dieu à cause du sacrifice de Jésus-Christ, parce qu'il a été compté au nombre des malfaiteurs. Pour nous, nous avons accès à lui par la prière. Et il dit, vous ferez des œuvres plus grandes que j'ai faites parce que je m'en vais au Père. Parce que j'entendrai vos prières et ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et c'est cela qui est merveilleux, c'est que nous pouvons vaincre par la situation de ce monde parce que nous avons Jésus-Christ assis à la droite du Père. Et puis il a dit qu'il nous enverrait son Esprit Saint, que son Esprit Saint nous accompagnerait, qu'il nous enseignerait, qu'il nous rappellera tout ce que sa parole nous a dit. Et puis, il dit, je vous laisse ma paix. Voilà, au milieu de cette tourmente-là, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. C'est merveilleux de savoir ça. Et quand il termine dans ce chapitre 16 de l'évangile de Jean, au verset 33, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez du trouble. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Il l'a vaincu à la croix. Il l'a vaincu par l'offrande de sa vie en sacrifice. On a des occasions d'être troublés par le diable lui-même, par cette puissance, par notre propre chair, tellement faible, tellement égoïste, orgueilleuse, fanfaronne, lâche, par le monde dans lequel nous vivons. Il ne fait jamais la promotion de l'œuvre de Dieu. Il s'oppose invariablement à Jésus-Christ et aux disciples. Mais Dieu triomphe de nos troubles. Et à la fin, c'est Dieu qui gagne. Dans sa chanson, dans son gospel, Louis Armstrong dit toujours « Glory, alléluia, glory, alléluia, gloire, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel. » Oui, il y a du trouble. Oui, je peux avoir du trouble, je peux connaître ce trouble-là. Mais Jésus a vaincu, a triomphé du trouble, de mon trouble, par la croix. Alors, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi, en Jésus.